بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام، الحمد لله. Nous reprenons ce soir donc les programmes sur le hadith de Jibril, hadith dans lequel l'ange Jibril alayhi salam avait questionné le prophète alayhi salatu wa salam en compagnie des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in sur les piliers de la foi, sur les branches de l'islam, sur l'ihsan, sur les signes de la fin des temps, différentes questions. Et on avait dit que ça c'est un hadith ra'isi, c'est un hadith basique, hadith essentiel, capital, que chaque croyant se doit de connaître, de comprendre, pour mettre en pratique sa vie de musulman. Parce qu'on pourra mettre, si on peut s'approcher un petit peu, au moins, on ne gêne pas les gens qui sont en train de prier, Inch'Allah. On n'a pas besoin de trop lever la voix. Barakallahu fikum. Donc on disait que, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le hadith Jibril? On pourrait dire que c'est un des hadiths les plus importants de tous les hadiths compilés. Parce que dans ce hadith, on parle des piliers de l'islam, et on parle surtout des arkan de l'iman, des branches de la foi. Et on avait expliqué à maintes et maintes reprises que très souvent, hein, le croyant se focalise sur les bonnes œuvres, sur les bonnes actions, ce qui est une bonne chose, mais on a tendance parfois à oublier le côté intérieur, tout ce qui concerne le cœur, la foi, le iman qui est dans le cœur. Alors que pour que nos actions aient une véritable valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, pour que les actions soient remplies de sincérité, pour que les actions soient accomplies avec dévotion, pour qu'ils soient accomplis surtout avec constance, avec istiqama, il faut absolument les qualités de la foi. S'il n'y a pas les qualités de iman, il n'y a pas les qualités de la foi, on n'aura pas de dévotion, on n'aura pas de concentration, on aura du mal à développer tout le temps ikhlas, et surtout, il y aura un manquement de l'istiqama. Parce qu'on a l'exemple qu'on a déjà donné, mais on redonne encore, c'est un rappel pour nous tous. Dans le mois de Ramadan, on voit beaucoup de gens, mashallah, ils viennent à la masjid, les gens jeûnent, tout le monde lit le Coran, tout le monde est présent aux 5 salats, salat al-tarawih, les gens, mashallah, ils restent jusqu'à 22h, jusqu'à ce que ça se termine. Et on se dit que, mashallah, la umma, elle va très bien. Les croyants, ils répondent présents. Et on est content, hein, ce n'est pas un constat alarmant, bien le contraire, hein, ça remplit les cœurs de joie. Mais là où il y a la désillusion totale, c'est le lendemain de Eid al-Fitr. Le lendemain du Eid, c'est comme si que on revenait en arrière. C'est comme si que ces personnes qui avaient connu un éclat de iman, une poussée de foi, ben cette poussée-là, elle retombe subitement. En fait, les personnes mettent en pratique arkan al-islam, la salah, obligation, pilier, le saum, pilier, donc les amal, ils y sont. Mais ce qui doit composer l'ossature, le ciment, les fondations de ces bonnes œuvres, c'est-à-dire le iman, une véritable foi en Allah, une véritable foi sur les anges, une véritable foi sur le jour de la résurrection, sur les prophètes, sur les livres, et ainsi de suite, sur le destin. Ça, c'est l'ossature, normalement, de notre dîn. Et si on n'a pas l'ossature, on a juste les aboutissements de ces arkan al-iman, de ces piliers de la foi, c'est les arkan al-islam, c'est les piliers de l'islam, c'est-à-dire les actions extérieures. Si on n'a que les actions extérieures, et que ces actions-là ne sont pas consolidées par une foi solide, il n'y a aucune raison de s'étonner de voir les gens qui viennent à la mosquée pendant 30 jours et qui ensuite disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus. Parce que si dans mon cœur, là, je n'ai pas conscience que Malik al-Maud vient reprendre mon âme à 75 ans, à 82 ans, ou à 28 ans, ou à 19 ans, si je ne sais pas qui est l'ange de la mort, si je ne sais pas comment est-ce qu'il se présente aux gens en fonction de ta foi, c'est pas en fonction du nom de ta famille, hein. C'est pas parce que lui c'est un grand fundi, donc l'ange de la mort il vient avec beaucoup de baraka. Lui c'est, j'ai pas dit un petit fundi, mais lui c'est monsieur tout le monde. Alors donc il est pécheur, donc non, pas, je peux pas vous dire ça. Lui c'est monsieur tout le monde, il n'a pas d'argent, il n'a pas de titre, donc l'ange de la mort va le mépriser. Ça se passe pas comme ça, hein. Si vraiment on connaît qui est Malik al-Maut, si vraiment on connaît qui sont ces anges qui inscrivent les bonnes œuvres et les péchés, et comment ils sont assidus, comment ils ne lâchent rien, même quand on est en train de soupirer,
quelqu'un soupire ou il pousse un cri de douleur, je ne sais pas quoi. On avait vu ça, Imam Ahmad a dit, même un cri de douleur, les anges inscrivent. Et le jour de Qiyama, ce cri de douleur, c'est dans le livret d'action. Et on verra est-ce que c'était quelque chose de positif ou négatif, ou si c'est neutre, ça n'aura pas d'influence. Mais si réellement on comprend Iman sur les anges, si vraiment on connaît les anges qui sont dans la tombe, les anges qui viennent poser des questions, comment c'est une étape extrêmement difficile, si on est conscient de la façon dont les gens seront ressuscités, que le Qiyama c'est un point de non-retour, un point de non-retour, tant dans le sens de l'espace, dans le sens du temps, c'est l'infini, mais également par rapport aux situations. Les péchés que tu emmènes, c'est les péchés que tu accomplis. Dans Surah At-Takwir, Allah Azza wa Jalla dit « Alimat nafsum ma ahdarat ». En ce sens, chaque personne sera ce qu'elle a apporté. Et on avait expliqué ça au latin, « Ahdara », c'est apporter. « Ahdara yuhdiru », c'est amener avec toi. On avait donné cet exemple, que quand vous passez, vous allez en voyage, d'accord ? Vous allez à Mayotte et vous retournez à La Réunion, d'accord ? La douane, c'est écrit, on n'a pas le droit d'amener des poissons. On n'a pas le droit, enfin non ? Pas le droit, hein ? Alors vous avez amené, mashallah, 12 kilos de capitaine, ou bourgeois, je ne sais pas quoi. Quand le douanier, il ouvre la valise, il dit, monsieur, c'est quoi ça ? Vous dites quoi ? Il dit, hé, qui a mis ça dedans ? Je ne sais pas. Les poissons sautés de la mer, rentrés dans ma valise, ça ne marche pas. Alimat nafsum ma ahdarat, ce que tu as emporté. Si ces 12 kilos de poissons là, ils sont dans ta valise, c'est un exemple, hein, c'est toi qui les as mis, yahi. Et donc, au moment de passer au hisab, hein, d'un sens, au moment de passer les comptes à la vérification, le douanier te surprend avec ça et tu as des problèmes. Décalage, hein, d'exemple, jour de Qiyama, ce qu'on retrouve dans notre livret de compte, c'est uniquement ce que j'ai accompli. Et le livret de compte, là, c'est pas quelque chose qui nous était imposé, ça. Hein. C'est pas que, par exemple, Ibrahim ou Ismaïl, il est né, on va dire en 1982, et il est obligatoire, il n'a pas de, on appelle ça en français le fatalisme, hein, il n'y a pas de solution, il va faire tous ces péchés-là. Et donc, le jour de Qiyama, il se présente devant le tribunal d'Allah avec les péchés qui lui étaient prédestinés. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Allah, Rabbul Izza, qui est Hakim, qui est Adl, sage et juste, donne le choix à l'homme. Le choix entre le droit chemin et le mauvais chemin. C'est pour ça que nous, on demande Ihdina Sirat al-Mustaqim, Ihdina Sirat al-Mustaqim, du matin au soir, du premier Muharram au dernier Dhul Hijjah. Toute la vie, on demande plusieurs fois par jour Ihdina Sirat al-Mustaqim, parce qu'on a besoin qu'Allah nous donne tawfiq de faire de bonnes œuvres, afin que lorsqu'on verra la réalité du verset Alimat nafsum ma ahdarat, ben on voit qu'est-ce que j'ai amené dans mon livret de compte. J'ai amené des bonnes œuvres et alhamdoulilah, je n'ai pas amené des péchés. Mes chers frères, c'est pour ça qu'on parle de iman. Il ne faut pas qu'on se dise que ça c'est secondaire, ça c'est l'invisible, que les anges c'est un monde parallèle, c'est un monde extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui va m'aider à m'en sortir de la vie, ce n'est pas ça qui va. Le plus important, c'est que je fais mes salats, je lis mon Coran. Il ne faut pas penser comme ça. Bien au contraire, c'est ces piliers du iman là qui vont nous ouvrir les yeux. Qui fera que quand quelqu'un se prosterne devant Allah, il va comprendre quelle chance et quelle est la valeur de ce sujda. Parce que quand on verra par la suite l'au-delà, al-iman bil yawm al-akhir, et qu'on va comprendre comment les gens seront à la recherche de petites bonnes actions, moindre bonne action, c'est là que je réalise que cette salat al-isha que j'ai fait il y a 15 minutes là, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et combien dans ma cité, dans mon voisinage, dans l'immeuble où j'habite, combien de musulmans ils sont pas venus faire la salat. Ils vont pas faire, ils vont regarder The Voice, ils vont regarder Bones, ils vont regarder je sais pas quoi, et puis ils vont dormir. Ils vont pas faire salat. C'est-à-dire qu'il va dormir sans se prosterner devant Allah. Ça, c'est une catastrophe. Il y a pas pire que ça. C'est-à-dire qu'il va dormir, il va se coucher comme un kafir se couche. Oui ou non? Il va se coucher de la même façon que quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah dans son cœur se couche. Il mange, il boit, il va regarder ce qu'il veut regarder à la télé, après il va dormir comme ça. Sans se prosterner devant Allah, sans remercier Allah pour le ni'ma de la santé, le iman et tout ce qu'il lui a accordé. Ça c'est la pire des choses. Alors que moi je suis là, j'ai fait ma salat al-isha, j'écoute, alhamdulillah, en plus ça c'est un bonus qu'Allah nous accorde, un programme où on parle du dîn d'Allah. Ces assemblées là, cette salade que j'ai accomplie, qu'on a accomplie ensemble, mes chers frères, ça c'est le plus grand trésor de ce monde. Ça c'est les plus grands trésors de ce monde. J'écoutais hier le témoignage d'une dame qui expliquait qu'elle avait gagné, je ne sais pas quoi, l'euro million ou je ne sais pas quoi. Elle a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 20 millions d'euros, je ne sais pas quoi. Bref, 1 euro, 20 millions, c'est pareil. C'est dans le Jahannam, tout ça. Ça n'a aucun intérêt sans la ilaha illallah. Ça n'a aucun intérêt. Elle explique que quand elle a vu ce ticket, elle s'évanouit, elle pleurait, elle riait, elle pleurait, et ainsi de suite. J'ai vu ça 5 minutes. Après, j'ai dit, de toute façon, bon, on n'a pas le 20 millions, donc intéresse pas moi, qu'il a fait avec. De toute façon, c'est l'argent haram. D'accord ? Et la personne, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec. Mais elle a dit, première chose, vous faites quoi quand vous gagnez hein? Elle a dit, ben, on change de voiture. Allez, ok, tu changes de voiture. Après, tu achètes une villa. Après, tu fais ci, tu fais ça. Mais est-ce que c'est ça qui apporte la tranquillité dans ton cœur? Il y avait une parole magnifique d'Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans tafsir, dans un tafsir, j'ai lu ça quelque temps. Il a dit, allez voir al-Mulouk wa abna ul-Mulouk. Allez voir ces rois, allez voir ces princes, ces gens qui ont des palais, des châteaux, des millions, des millions, des millions de dollars ou d'euros, quelque chose à la monnaie, mais qui n'ont pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah de leur cœur. Scrutez leur cœur, analysez l'intérieur de leur poitrine et voyez si vous trouvez une petite quantité de quiétude, de tranquillité, de sakina. Est-ce qu'il y a un cœur apaisé ou il y a un cœur en mouvement, un cœur angoissé? Il y a quelque chose qui manque. Assurément, quand il n'y a pas le tawhid, l'unicité d'Allah de le cœur, jamais il n'y aura sa'ad, jamais il n'y aura le bien-être. Ça, on doit avoir la conviction. Et donc, qu'un croyant, et là on comprend quand le sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, ils expliquaient que quand, si l'un d'entre nous, si ça arrivait à l'un d'entre nous de rater une salah, c'était pire qu'une personne qui perd sa femme, ses enfants, sa famille, ses biens et tout. Ça, on avait déjà expliqué aussi. Imaginez qu'Allah nous protège, il y a un cyclone terrible, ou il y a Allahumma hafazna, un tremblement de terre ou cataclysme. Tu rentres chez toi, ta maison est détruite, ta femme, tes enfants, hein, ils sont des cadavres devant toi, tu as tout perdu. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de famille, tu n'as plus personne. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si tu n'existes plus. Comme si on ne comprend plus, on n'a même plus de mots, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien. C'est ton histoire qui est effacée. Mais les sahaba, sans exagérer, sans mubalara, ce n'est pas une métaphore. Pour les sahaba, rater une salah, ça les mettait dans un état plus de détresse plus fort, plus intense que ça. Parce qu'il sait que quand il rate une salah, c'est qu'Allah n'a pas donné tawfiq à la personne de se prosterner devant lui à un moment donné. Et pour eux, ça c'est pire des choses, la catastrophe. Alors que nous, nasallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on est prêt à faire passer avant une salah? Le nombre de choses qu'on peut faire passer avant notre salah. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'attristant, mais en même temps, c'est une preuve concrète du décalage qu'il y a entre notre vie et la vie des sahaba. Notre iman et leur iman. Comme hein, la citation qu'on a dit deux fois dans deux majlis différents, si les sahaba voyaient les plus pieux parmi nous, ils se seraient dit que ceux-là n'ont aucune part dans l'au-delà. Si les sahaba voyaient les plus pieux dans la umma, à une certaine époque, on parle encore de l'époque des descendants, des tabi'in, ils se seraient dit que ces gens-là n'ont rien de l'au-delà. Ils n'auront rien de l'au-delà. Tellement ils auraient considéré que leur pratique de la religion est inexistante. Maintenant, que dit à nous à notre époque? Notre relation avec Allah, notre manière de pratiquer, vraiment, si Allah n'a pas pitié de nous, on n'a aucun espoir. Même pas de voir le Jannah. On ne mérite même pas de voir le paradis. Mais c'est qu'Allah Azza wa Jal a pitié de ses créatures et Allah nous aime. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On revient, Inch'Allah, sinon on va... Ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est d'apprendre iman. Connaître c'est quoi iman. Et avec cet iman-là, là, on aura l'envie de faire des bonnes œuvres. Quand quelqu'un a compris c'est quoi l'au-delà, là, et surtout ce qu'on va voir là, Inch'Allah, aujourd'hui, quand quelqu'un a compris qui seront les hommes les plus heureux, le jour du Qiyamah, je ne parle pas de le Jannah, dans le Jannah tout le monde est heureux. Qui seront les gens les plus heureux le jour de la résurrection? Quand tu analyses la situation de ces gens, la tranquillité qui sera de leur cœur et leur situation honorifique le jour de la résurrection, ben assurément ça nous donne l'envie, ça fait naître en nous la motivation d'avoir, de développer les mêmes qualités qu'eux, pour avoir une place avec eux le jour de Qiyam. Donc, on s'était arrêté la dernière fois. On ne va pas récapituler. On démarre ce soir. C'est parmi les points importants concernant la croyance de l'au-delà, en l'au-delà, c'est avoir la conviction également hein, de la façon dont les gens, de l'endroit plutôt, où les gens seront ressuscités. Ce sera une plaine vaste qu'Allah Azza wa Jal va créer, Allah Azza wa Jal va, on pourrait dire, aplanir la terre, « wa yamudduha » et Allah Rabbul Izza va étendre la terre. Certains savants donnent cette métaphore, dit, comprenez comme si vous avez une pâte et vous l'étalez, vous l'étalez, vous l'étalez. La terre, elle va être étalée au maximum pour accueillir toute la création. Comme le dit le verset, « wa idha al-ardu muddat » en ce sens, la terre va être étendue. Donc ça, on doit avoir le yaqin. Comment sera la terre qui va nous accueillir le jour de Qiyama? Et pour que la terre soit étendue, il y a d'autres étapes. « Idha sama unshaqqat » le ciel qui va se fendre. « Wa azinat rabbiha wa huqqat » avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal, le ciel va se fendre, la terre va devenir, va prendre cette forme, et là aussi avec, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et cette terre, « La tara fiha iwajan wa la amta » c'est une terre aplanie où il n'y a pas de côte ni de dénivelé. Et comprenez que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'endroit où on trouvera de l'ombre. Un endroit où on pourra trouver soit de l'eau, soit de l'ombre, un endroit où, s'abriter. Alors non seulement une surface plane, c'est une véritable plaine, mais en plus, suite du verset, suite d'explication, « wa tutwa samawat » les cieux seront pliés. Ça c'est des notions que la logique humaine ne peut même pas concevoir. Allah Azza wa Jal va plier les cieux. Dans un tafsir, il donne comme exemple, il dit c'est comme une personne qui a écrit un courrier et ensuite il plie sa feuille. Hein, vous pliez votre feuille pour mettre dans une enveloppe. Elle dit Allah Rabbul Izzah va plier les cieux en ce sens, de cette façon, je veux dire. C'est pas une comparaison, na'oudou billah, mais les cieux vont être pliés. Ça montre la puissance extraordinaire d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre étape, donc plus de ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres que le soleil est immédiatement sur la terre, mais ça c'est depuis avant. Wa tudna shamsu min al-khalq, le soleil sera rapproché, et ça il n'y a pas besoin de réexpliquer. On avait déjà donné pas mal de détails que les gens vont souffrir de ce soleil en fonction du degré des péchés qu'on avait accomplis dans ce monde, avec des gens qui vont transpirer jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, et d'autres qui vont être presque noyés dans leur transpiration. Et là, tout ce qu'on explique là, ça montre également que le jour de Qiyama, il n'y a plus de loi physique. Un endroit qui est plat, où certaines personnes ont de l'eau jusqu'à là, physiquement, selon la loi physique, c'est pas possible. Quand on avait expliqué, vous versez un verre d'eau, ça s'étale. C'est pas que vous versez un verre d'eau, là il y a 2 cm, là il y a 2 mm, là il y a 12 cm. Donc tout ça, ça nous fait comprendre également que le jour de Qiyama, ce sont des situations spécifiques de l'au-delà. Et lorsque donc les cieux sont pliés, le soleil est dans cette position, comme il n'y a plus de ciel, les gens auront une vision directe sur le trône d'Allah. Le trône d'Allah sera au-dessus des gens. Et quand on parle donc de soleil accablant, d'accord, et malheureusement, on ne pourra pas mourir déshydraté le jour de Qiyama. Personne n'aura ce luxe de mourir déshydraté ou brûlé par le soleil. Ce qui serait le rêve de beaucoup de gens. Comme ces kuffars qui vont dire « Wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba » Il va souhaiter être poussière. Les gens, ceux qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur, le jour de Qiyama, ils vont souhaiter être poussière. Alors que dans ce dunya, c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident de la pluie, du beau temps, expression, c'est eux qui décident qui est intégré, qui n'est pas intégré, qui est un homme moderne, qui n'est pas un homme moderne, qui vit à l'âge de pierre. Bref, c'est eux qui dictent le mode de vie de chacun et qui font la loi. C'est eux qui tuent, c'est eux qui font des génocides, c'est eux qui décident qui a tort, qui a raison. Comme il dit, c'est eux qui coupent, qui tranchent. Mais avec cette fierté, cet orgueil. Le jour de Qiyama, ces mêmes personnes, ce sera quoi leur souhait? D'être réduits en poussière. Pourquoi? Afin qu'ils ne soient pas présentés devant le tribunal d'Allah, afin qu'ils n'entrent pas dans le Jahannam. Donc, de cette situation terrible, où le prophète alayhi salat wa salam explique que certaines personnes vont demander à Allah de démarrer les comptes et, s'il le faut, de les envoyer tout de suite dans le Jahannam. Certaines personnes vont dire le jour de la résurrection, on parle de la première étape là, mais on ne peut pas donner des détails sur toutes les étapes de l'au-delà, c'est trop long. Il y a des gens qui vont dire « Allahumma arhamni walau ilan nar, salam al-afiyah. Wallahi, pitié de moi, envoie-moi de le Jahannam tout de suite. » Parce que là, cette première étape hein, de Al-Mahshar, c'est une étape qui est longue et qui est terrible. Est-ce que quelqu'un peut rester sous le soleil? Enfin, encore ici, ça va. Mais à Madina, moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, en été, après le Salat al-Dhahr, 52 degrés. On ne peut pas marcher dehors, impossible. Il y a quelques années, j'étais à Riyad. Après 52 ou 53 même, ça montait plus. Vous marchez, hein, la chaleur transperce vos chaussures, ça vous brûle les pieds. C'est des trucs impossibles. Alors si vous allez Salat al-Dhahr à pied, c'est impossible, c'est un truc de malade. D'accord ? Si on vous dit maintenant, reste 30 minutes au soleil comme ça, sans bouger, sans un châle ou rien sur vous, on meurt, on est déshydraté, on s'évanouit. Jour de Qiyama, c'est un autre degré avec le soleil qui est juste au-dessus de la tête. Ça, c'est des choses qui ne sont pas concevables. Le cerveau n'arrive même pas à réaliser qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce que nous, on doit retenir, c'est que c'est une situation de souffrance. Et dans cette situation de souffrance, il y a une ouverture. Il y a une source de bonheur. Dans cette situation accablante pour l'humanité, il y a une sélection de personnes qui vont être heureux, épargnés de toutes ces souffrances. Ce seront ces gens qui seront appelés sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama. Ça fait partie de nos croyances sur l'au-delà, que dans la première étape même de la résurrection, il y aura des gens qui seront élus par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ce seront les meilleurs des hommes. Les meilleurs des croyants. Les gens les plus aimés par Allah. Les gens qui ont développé le plus de qualités qu'Allah Azza wa Jal attend d'un croyant. Et ça, c'est le but de ma vie, ça. Quand j'entends qui sont ces gens-là, mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est d'être parmi eux. Et ces sept catégories-là, c'est pas réservé aux sahabas, hein. C'est pas réservé aux prophètes, c'est pas réservé aux tabi'in, c'est réservé à n'importe quel croyant qui va développer une de ces sept qualités. Et on va voir que ce sont des choses tout à fait accessibles. Premièrement, le prophète alayhi salat wa sallam dit, on va dire le hadith, mais rapidement parce que c'est dans le mardi, on fait un programme détaillé sur ces sept catégories. C'est à Montreuil, donc on ne va pas refaire la même chose. Juste ce soir, avoir une idée des qualités qu'il faut avoir pour être comme eux. On avait expliqué que une des façons hein, de progresser dans la religion, c'est de connaître le contre-exemple et de connaître le bon exemple. Le contre-exemple, connaître qui sont les gens qui vont échouer. Et très souvent, on a cité le hadith du Mouflis. La personne qui a fait plein de bonnes œuvres le jour de Qiyama, il va être dépouillé, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas, de toutes ses bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que dans ce dunya, il faisait du tort aux gens. Al-Mouflis. Ça, c'est le contre-exemple. Donc, on voit ça, on a peur. On dit, attention, il ne faut pas que moi, je me défonce, je fais plein de bonnes actions, mais j'insulte, je fais la médisance, je fais la calomnie, j'accuse, je colporte, je prends l'argent, je vole, ainsi de suite. Et le jour de Qiyama, tous ces gens-là, ils ne vont pas me laisser. Hein. Ils vont demander réparation devant le tribunal d'Allah Azza wa Jalla. C'est le contre-exemple. Maintenant, il faut connaître les exemples. Et quand on connaît les exemples, c'est-à-dire ceux qui ont réussi leur passage sur la terre, et quelle était leur qualité prédominante, l'objectif, c'est de pouvoir développer soit toutes les qualités, ou alors une de ces qualités. La première de ces personnes, la première catégorie, c'est Al-Imam Al-Adil. C'est-à-dire celui à qui Allah Azza wa Jal avait donné le pouvoir de ce dunya et qui agissait avec justice et équité. Et ça, c'est très important. Ça peut être pour un roi, un sultan, un prince, un ministre, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Ça peut être également pour une personne qui a des gens sous sa responsabilité. Selon certains savants, ça s'applique au amir, quelqu'un qui dirige des gens. L'objectif, c'est que la personne soit juste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Car Allah Azza wa Jalla dit le Coran, « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan » Allah Azza wa Jalla ordonne en ce sens d'être juste et d'être bienfaisant. Et dans un hadith, le Prophète me dit, hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ibadi, harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu haraman baynakum, fala tazalamu » Sans de hadith que, ô mes serviteurs, j'ai rendu le zulm, l'oppression interdit. Je me suis interdit le zulm, l'oppression. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla dit que jamais il n'opprime un serviteur. Et je l'ai décrété haram entre vous. Je vous interdis de faire preuve d'injustice. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, dans ce dunya, Allah Rabbul Izzah attend de chaque croyant d'être juste et de ne pas être injuste, donc de ne pas opprimer son prochain, et plus encore qu'Allah vous donne des responsabilités. On a une façon parfois de voir les choses, voir quelqu'un qui a un poste ou qui a telle responsabilité, dit que lui, il est roi, il est prince, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont des bienfaits, mais ces gens-là, ce seront les gens les plus sévèrement jugés le jour de Qiyam. Parce que plus Allah donne, plus Allah attend de ces personnes. Et malheureusement, on constate que rares, très rares sont ceux à qui Allah a donné le pouvoir et qui font preuve de justice. Et ça, on avait vu dans Malik Yawmiddin, tafsir de Surat al-Fatiha, on avait dit que pourquoi est-ce qu'on dit que Allah c'est le maître du jour de la rétribution? Parce que le jour de la rétribution, le seul qui aura le mulk, c'est Allah. Alors que de ce dunya, Allah accorde la royauté à des êtres humains. C'est des êtres humains qui dirigent des pays, des nations, des villages ou des zones et ainsi de suite. Mais ces gens-là, en fonction de leurs agissements, ils seront jugés. Ada. Et on ne va pas entrer dans trop de détails. Il dit que parmi, là il donne les qualités d'un bon qadi, par exemple d'un juge, d'accord, quelqu'un qui donne des jugements ou qui va juger les gens. On amène à l'adli. Indique que ça fait partie des qualités, de l'éthique du croyant juste dans un jugement de considérer au même niveau al-faqir ou al-ghani, un riche ou un pauvre. Quand il y a un conflit et que j'ai quelqu'un de pauvre et j'ai quelqu'un de riche, il ne faut pas que mon jugement va vers la personne de riche. Parce que lui c'est une grande famille et lui c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, donc je vais donner raison au riche parce que j'aurai des avantages. Ça c'est contraire au adl, à la justice. Mais dites-moi, est-ce que le monde ne fonctionne pas plutôt de la première façon? Quand quelqu'un vole 3 millions, 4 millions, il détourne ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, on entend, ça fait la une. Deux semaines après, on n'entend plus parler. On entend même les Arabes qui a fait une bêtise, voilà, un musulman, un islamiste, voilà. Puis ça calme les choses. Ouf, heureusement qu'il y a un islamiste qui est par là, parce que sinon, on aurait cherché des problèmes à ce bourgeois-là, qui a détourné, qui a volé, qui a machin. Alors que, quand un citoyen, quelqu'un, Mamay Chaudron, Mamay Camélia, Mamay, je ne sais pas où ça, il a volé un petit truc, enfin, je ne cautionne pas le vol, hein, d'accord? Il a volé quelque chose qui n'a quasiment pas de valeur, il se prend un mois ferme, deux mois ferme, trois mois ferme, direct. Comme si qu'il a, alors que ce que l'autre-là, il a volé, c'est 3 millions de fois supérieur à la valeur qu'il a pris. Et il a pris votre argent, lui. Il a pris l'argent de tout le monde. Quand le bonhomme, il vole 3 millions, 4 millions. Je dis, je ne parle pas de politique, hein, d'une manière générale. Quand il a détourné de grosses sommes, là, hein, c'est toutes les taxes d'habitation qui te fait peur, qui te fait trembler. Le CGSS, le je ne sais pas, tout qui a été tralala. Tout ce que quand tu reçois, quand on regarde, où les enveloppes d'impôts, il arrive là. Attention, il arrive 9, parfois 8. D'accord, il a besoin de jus d'orange. Là, j'ai la transfusion sanguine, parce que vous connaissez quand ça ouvre là, il faut dire adieu les vacances, les enfants. D'accord? Et donc, c'est votre argent qu'ils volent. Mais, voyez la justice de ce dunya. Après, on vient nous donner des leçons. On vient nous donner des leçons d'humanisme, de valeurs humaines. Non. Regardez Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il est amir al-mu'minin. C'est-à-dire, on parle de l'époque où il est calife. Il a un litige avec un Yahoud, on dit clairement avec une personne de confession juive. D'accord? Le litige était à propos d'une armure, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est une bague, une armure, il y avait deux histoires. On va dire l'armure, d'accord? Et donc ils vont voir le qadi. J'ai plus le nom du qadi, du juge en tête. Il va voir le qadi. Et donc, on sait qu'il faut qu'il y ait des témoins. D'accord? Le Yahoud, il dit que ça sert à moi. Et c'est Ali qui porte plainte, il dit non, ça sert à moi. Donc Ali doit amener deux témoins. Il a qui avec lui? Quelqu'un de sa famille. Et le témoignage d'un fils pour son père n'est pas accepté. Parce qu'on considère que c'est un témoignage biaisé. Ça va dans le sens du papa. Et donc en finalité Ali n'a pas de témoin. Et le juge, on comprend bien, on est dans Mamlaka Islamia, hein, on est dans la ville sainte, je ne sais pas si c'était à Madina ou ailleurs, on est dans un pays musulman avec Sharia. Le juge qui est musulman, qui est en face de lui Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, il applique les lois de la charia, comme celui qui accuse n'a pas de preuves, alors que celui, l'autre, je sais pas comment on dit, l'autre partie a juste à jurer que c'est à lui. Et comme le Yahoud, l'homme de confession juive, a juré que c'est à moi, et que Ali qui accuse qu'il me l'a volé, il n'a pas de preuve, ben il a dit que je décrète que ça appartient aux juifs. Adl, justice, c'est les règles. C'est pas parce que lui c'est Amir al-Mu'minin, il n'a pas de témoin. Donc on respecte les règles. Et le Yahoud a vu ça, il a compris que subhanallah, ce dîn-là, cette religion elle est extraordinaire. On ne regarde pas la religion des gens quand il s'agit huququn nas, les droits des gens. Quand il s'agit de bien, de voler ou de machin, on ne regarde pas ce que lui il est croyant, il n'est pas croyant. La justice, elle est la même entre tous les hommes. Et il accepte, il est shahada, il reconnaît que ça c'est la religion du haqq, ça c'est la religion de la véracité. Mes chers frères, il y a des grandes leçons à retenir. Est-ce que nous-mêmes on est juste envers nos prochains? Dans un verset du Coran, Allah dit « Wala yajlimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu ». Après, qu'est-ce qu'Allah dit ?« I'adilu huwa aqrabu littaqwa ». Bien que, en ce sens, hein, j'ai en gros le tafsir en tête, mais de crainte de me tromper, je crois que c'était dit que le fait d'avoir une aversion ou alors d'avoir un passé avec des gens, un passé, un passif, hein, on va dire négatif, une mauvaise expérience avec des gens, on a eu une rancune, malgré ça, quand on a affaire à eux plus tard, il ne faut pas être injuste. Ce n'est pas parce que lui, il m'a fait quelque chose il y a 5 ans, 6 ans, que maintenant, si j'ai une responsabilité et que j'ai affaire à la personne, je vais le casser direct parce que dans le passé, il m'a fait quelque chose. Interdit. Voilà, yajdimannakum shana'an qawmin ala alla ta'adilu. Le passif, les mauvaises expériences passées ne doivent pas nous pousser à mal agir, à agir de façon, pardon, injuste. Allah t'a dit, i'adilu. Soyez juste. Ça, c'est vraiment la conception de la justice. Également, ça c'est quelque chose de magnifique par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hadith très connu. Hadith dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu un sahaba qui voulait intercéder pour une femme qui avait volé. Et dans l'islam, la sentence c'est quoi pour le vol? Et là on parle de charia, ça s'applique si c'est un pays musulman. Ça n'a pas fait ça ici. D'accord? Pas parce que quelqu'un la vole une bicyclette, ou ça coupe son main, la rue, le riz est bas, le riz est haut, ou ça, mais écoutez, ces âmes derrière, une femme coupe son main. Malade. Shara'an, c'est haram. Ça, c'est haram. Si quelqu'un fait ça, c'est lui qui est dans le péché. Parce que ça, c'est spécifique un endroit où c'est la charia qui est appliquée. C'est pas n'importe qui. D'accord? Autrement, c'est l'anarchie. Tout le monde devient débouché. C'est du grand n'importe quoi. D'accord? C'est le chaos. Donc, une femme des Bani Makhzoum, elle avait volé. Une femme avait volé, donc la sentence devait être appliquée. Mais ce qui était un petit peu ennuyant, c'est que c'était une femme qui faisait partie d'une grande tribu. Les Banu Makhzoum, c'était des grandes tribus. Alors pourquoi elle a volé, Wallahu A'lam? Et donc, quelqu'un était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète Shafa'a, le prophète d'Allah, c'est une dame de telle tribu et tout. On te demande, c'était Oussama qui avait fait le Shafa'a. En plus, Oussama, il était très aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama bin Zayd faisait partie de ces jeunes que le prophète aimait énormément. Malgré ça, regardez la justice sur les deux plans. Premièrement, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup qu'il lui demande une faveur qu'il va accorder. Non. Ce n'est pas par exemple, quelqu'un a un problème avec une personne, ça voit son garçon et dit « Papa a fait un geste ». Non. Ça peut être mon fils, mon petit-fils. On applique la justice. Deuxièmement, le prophète Ali salatu wassalam n'a pas apprécié cette intercession. Il a dit « Il dit, oh Zayd, tu oses intercéder, fi haddin min hududillah, tu oses demander l'intercession dans quelque chose qui concerne les lois d'Allah Azza wa Jal, ankara alayhi. Il lui a fait des reproches. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال. Cet abîme du prophète, lorsqu'il y avait quelque chose d'important, il faisait tout de suite une khutbah. Il s'adressait aux gens. Il expliquait, il donnait toujours les nasiha, les conseils. Il dit, amma ba'd, fa innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu. Wa sallam dit que, oh musulmans, faites attention, les gens qui sont venus avant vous ont été détruits parce que lorsqu'un noble, de le dire, il n'y a pas de noble, il n'y a pas la noblesse, il n'y a rien, il n'y a pas de tiers état, il y a innama al-mu'minuna ikhwa. D'accord? Lorsque quelqu'un d'une grande tribu volait, tarakuhu, on ne lui faisait rien. Parce que c'était quelqu'un d'une grande tribu, d'une grande famille. Wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd. Et lorsque c'était quelqu'un de faible qui volait, là on appliquait la sentence. On dit, je jure par Allah, halifu billah, je jure par Allah. Est-ce que le prophète a besoin de jurer par Allah? Tout le monde le croit. Mais il dit, je jure par Allah, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Je jure par Allah que si Fatima, ma propre fille, venait à voler, je couperais sa main personnellement. C'est pas parce que c'est ma fille que je vais dire que non, là, il n'y a pas de nécessité. Allah Azza wa Jalla va pardonner parce que c'est la fille de Ashraful Makhlouqat. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon de justice, d'équité. C'est quoi être adl, faire preuve de justice. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à la pour ce soir parce qu'on est déjà à 30 minutes, à 35 minutes. Bon, on visait un peu haut, on pensait faire les 7 catégories rapidement ce soir. Mais vous savez, à travers, Inch'Allah, ce petit cheminement vers ces 7 catégories de personnes, on va voir qu'il y a toujours une qualité qui se dégage et c'est une qualité qui est accessible. Une qualité qui fait partie des grandes valeurs humaines. Là, on a la justice. On va voir l'égalité. On va voir la piété. Bon, ça, c'est pas une qualité dans la société, ça, la piété. On va voir la spiritualité, l'amour pour Allah, la fraternité, la solidarité envers ses prochains. C'est-à-dire tous les grands mots qu'on nous ressasse en permanence, d'accord, pour nous faire comprendre, ça, c'est les valeurs de notre société. Ben, ces valeurs-là, là, on les a déjà dans notre dîn. On n'a pas attendu 2 siècles, nous. Depuis Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq a été révélé, ça c'était les valeurs que notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à chaque croyant. Et encore une fois, si on pratiquait vraiment notre religion, là, on deviendrait les meilleurs des hommes. Et chaque personne qui nous voyait trouverait la guidée et trouverait la hidayah immédiatement. Parce que quelqu'un qui vit comme le Coran le demande, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, ça devient une lumière qui illumine tout le monde et une source de guider. On a vu ce soir, une qualité, c'est être juste et équitable. Donc même moi, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille aussi, en tant que père de famille, je me dois également de faire preuve de justice envers toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité. Ça, c'est extrêmement important. Qu'Allah t'aime notre tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah Rabbul Izza nous accorde, hein, à nous tous, toute personne présente, Inch'Allah, une place sous l'ombre de son trône, le jour de Qiyama, qu'Allah nous donne la possibilité de développer une de ces qualités qu'on va citer, ou alors toutes ces qualités. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.